long, mais on pourrait résumer en quelque sorte tout cela par une phrase. Croyez en Christ, écoutez sa parole, suivez-le, confessez-le, mais surtout ne dites rien à personne. Et ce pourrait être les propos d'un militant de la laïcité, soucieux de reléguer les croyances dans la sphère privée et d'exiler les religions de l'espace public. Mais n'est-ce pas aussi ce que l'on pourrait comprendre des propos de Jésus dans les textes que nous venons de lire? En effet, qu'avons-nous entendu? Eh bien, qu'il renvoie l'aveugle chez lui en lui disant « n'entre même pas dans le village », qu'il commande sévèrement à ses disciples de ne parler de lui à personne, qu'il en emmène trois à l'écart sur une haute montagne, à l'écart, qu'il leur recommande de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu. Tout cela, vous en conviendrez, n'encourage guère à porter l'évangile dans l'espace public. Et cela rappelle au fond que toute annonce publique de l'Évangile ne peut être que problématique, ce dont les disciples ne vont pas tarder à faire la cruelle expérience, malgré les avertissements de Jésus. Et pourtant, tout semblait avoir bien commencé. Jésus est en route avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée, ces contrées proches des terres païennes, ces lieux de religiosité un peu ambiguë, d'idolâtrie qui ressemble tellement à notre monde. Et c'est cela en chemin au cœur de l'espace public, en somme, c'est là que Jésus interroge ses disciples. Que suis-je ? Leur demande-t-il, au dire des hommes. Et aussitôt les réponses fusent de toutes parts, Jean-Baptiste, Élie, un des prophètes. On a le sentiment que les disciples sont à l'aise pour donner des réponses préparées par d'autres, pour se faire l'écho des attentes et des modes religieuses du moment, ou pour répéter des éléments de la tradition. Nous connaissons bien cela. Mais Jésus ne se contente pas des réponses toutes faites, des prêtes à penser, des prêtes à croire. Alors il interroge à nouveau, « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Vous, mes disciples, qui m'accompagnez sur les routes de Galilée ?» Mais vous aussi, d'ici ou d'ailleurs, réunis dans ce temple ce matin, qui dites-vous que je suis ? Vous, vous, vous ? Car c'est bien à chacun, à chacune d'entre nous, que le Maître pose la question. Alors Pierre, toujours prêt à se mettre en avant, pas toujours à son avantage d'ailleurs, Pierre répond à Jésus, « Tu es le Christ ». Nous pensons, en lisant cela, que Pierre formule la bonne réponse. Or, visiblement, cette affirmation ne convient pas à Jésus, au point qu'il demande à ses disciples de garder le silence, et même il réprimande Pierre en lui disant « Tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». Jésus pressent en effet, d'une certaine manière, qu'un malentendu est en train de s'installer. Il perçoit derrière les mots justes d'une belle confession de foi, il perçoit la difficulté à la vivre concrètement. Une difficulté dont les disciples vont témoigner de quatre manières dans les textes que nous avons lus. Et ces quatre ratés des disciples sont intéressants car ils indiquent les écueils de notre mission et en même temps nous consolent de nos propres difficultés dans un monde qui n'est pas plus prêt que celui d'hier à recevoir l'Évangile. Alors, le premier de ces malentendus, c'est Pierre qui le révèle. Avec deux autres disciples, il a accompagné Jésus sur la montagne. Et là, il a eu la vision d'un monde transformé. Sur la montagne, Pierre voit une autre vie, une vie modifiée, une vie possible, un monde différent. Et Et sa réaction est immédiate. Sa réaction, c'est d'y demeurer. Il est bon que nous soyons ici, dit-il à Jésus. Alors, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ainsi, Jésus vient de mettre ses disciples en chemin, un chemin qui s'annonce difficile, et Pierre, lui, aussitôt, rêve de s'installer à l'écart, de planter sa tente loin des bruits et des cris du monde. Mais n'est-ce pas une tentation qui parfois nous guette, nous aussi? Vivre notre foi comme une évasion, nous mettre comme Pierre en congé de l'histoire, déserter l'espace public et faire de nos églises, de nos cultes, de nos fêtes, des moments où on est bien tous ensemble avec Dieu. Or, la suite du texte va nous rappeler que c'est au cœur du monde, tel qu'il est, que nous avons à témoigner du Christ, du salut qui vient de Dieu. Dans tous nos engagements, y compris les engagements citoyens. Car lorsque nous faisons de la foi une affaire privée, nous privons le monde de la bonne nouvelle. Ce n'est donc pas un hasard si l'on trouve juste après le récit de ce qu'on appelle la transfiguration, celui de l'enfant possédé. Après la grande promesse du renouvellement du monde, surgit la brutalité du scandale du mal, la souffrance d'un enfant possédé et la détresse d'un père désemparé. Après la vision d'un monde transfiguré, eh bien, voici l'histoire d'un monde encore dénaturé, défiguré. C'est notre histoire qui nous apporte chaque jour les drames et les images insoutenables de tous les déboutés du droit de vivre. Et à côté de cela, à côté de ces drames, nos inquiétudes de nantis paraissent bien dérisoires. Alors, quand l'histoire et nos vies s'obscurcissent, quand le désespoir nous submerge, nous pouvons faire nôtre la parole du père de l'enfant possédé, ce cri du doute et de la foi. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Mots fragiles, mots hésitants, mais qui disent malgré tout une espérance possible dans un monde qui est souvent démenti à l'espérance. Luther disait de la foi qu'elle est un désespoir confiant. Les disciples, eux, n'en sont pas encore là. Au moment même où sur la montagne, trois de leurs compagnons avaient la vision d'un monde nouveau, ceux qui sont restés dans la plaine ont été, eux, incapables d'en poser des signes en guérissant l'enfant. Ils se sont montrés impuissants à rendre crédible la parole, à la rendre crédible publiquement, à la rendre crédible devant tous. Alors nous découvrons dans cet échec le deuxième raté des disciples. Un échec que même après coup, il ne s'explique pas. Au point que le soir, quand Jésus fut rentré de la maison, ses disciples l'interrogèrent. Et pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Leur question n'est pas illégitime. En effet, un peu plus tôt dans l'Évangile, Jésus les avait institués pour chasser les démons, il les avait envoyés en mission. À cet effet, il leur avait donné autorité pour accomplir cette tâche. Alors, ils se croyaient désormais propriétaires d'un pouvoir leur permettant d'agir en l'absence du Christ. Ils ont cru que la guérison et la libération étaient entre leurs mains, comme il nous arrive parfois de croire que le salut du monde est au bout de nos méritoires efforts humains, alors qu'il est l'œuvre de Dieu seul, et que nous n'en sommes finalement que les témoins par nos paroles, par nos actes. Ainsi, l'échec des disciples nous rappelle qu'en dehors d'une relation personnelle au Christ, nourrie de sa parole, portée par la prière, en dehors d'une spiritualité vivante, nous ne pouvons rien faire, rien dire de décisif. Cela signifie qu'il n'y a pas de témoignage des chrétiens dans l'espace public si le Christ ne vient habiter leur espace intérieur. C'est cela, au fond, l'expérience de la foi, recevoir l'espérance d'un autre que nous-mêmes, recevoir espérance d'ailleurs que de nos propres forces et de nos propres œuvres, recevoir de Dieu seul une espérance que rien ni personne ne saurait dégrader. Alors, désormais, ni les découragements qui nous tourmentent, ni les peurs qui nous habitent, ni les doutes qui nous mordent le cœur, rien ne saurait remettre en cause cette certitude imprenable qui porte nos existences, même lorsqu'il nous arrive de l'oublier. Mais ce nouveau malentendu des disciples, apparemment, ne les trouble pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne guérissent pas, mais ils causent. De quoi discutiez-vous en chemin, leur demande d'ailleurs Jésus. La réponse est aussi pour nous. De quoi discutez-vous? De quoi discutons-nous dans nos assemblées d'église, dans les consistoires, dans les synodes, dans les conseils? Dans un premier temps, les disciples se taisent. Sans doute ne sont-ils pas très fiers. En effet, après que Jésus leur ait dit que le Fils de l'homme allait être livré aux mains des hommes, ils se sont querellés en chemin. Et pourquoi se sont-ils querellés? Pour savoir qui était le plus grand. Ainsi, Jésus leur parle de sa croix. Il leur parle des souffrances qui attendent ceux qui le suivent, et eux rêvent de grandeur, de notabilité, se disputant déjà une supériorité sur les autres. Troisième et redoutable tentation, qui consiste à transformer la mission que Dieu nous donne en instrument de pouvoir. Les églises ont trop souvent succombé à ces tragiques dérives, allant jusqu'à donner à la croix la forme d'une épée. Et même si elles ont aujourd'hui renoncé à dominer la société, leur fidélité est encore trop souvent mesurée selon les critères du monde, ceux de la performance, de l'efficacité, de la réussite, du nombre, de la notoriété. Alors, nous nous épuisons à tenter d'être, sinon les plus grands, comme les disciples, en tout cas pas les plus petits, ni les derniers. Et du coup, nous risquons de tomber dans l'activisme du faire, en portant des projets qui sont au-dessus de nos forces, avec parfois l'espoir secret de retrouver dans l'espace public une influence perdue. Or, les disciples d'un Messie serviteurs n'ont pas d'autre ambition à avoir qu'à être eux-mêmes des serviteurs et si possible ressembler à ces enfants dont parle ici Jésus, à ces petits qui attendent de Dieu et de sa grâce seule la force et la joie de leur vie. Mais ce cadeau qui nous est fait, nous n'en avons pas le monopole. Nous ne sommes pas les possesseurs de la bonne nouvelle, comme les disciples le croyaient. Nous voyons alors se dessiner le quatrième et dernier malentendu, qui est de vouloir confisquer la parole. Les disciples poussent même ici l'outrecuidance jusqu'à vouloir empêcher un homme qui guérit au nom du Christ, qui réussit là où ils ont échoué. À vouloir l'empêcher simplement parce qu'il ne fait pas partie de leur groupe. C'est déjà l'église officielle. préoccupé de ses frontières et de ses prérogatives, qui refuse de recevoir l'évangile des autres différents. Alors, au sujet de ce concurrent qu'ils veulent écarter, Jésus dit à ses disciples, « Ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après mal parler de moi. » Et par ces mots, il rappelle que la puissance de l'évangile échappe à toutes les organisations humaines. Aucune église n'est propriétaire du Christ, ni seule détient triste la vérité, même lorsqu'elle le prétend, et surtout d'ailleurs lorsqu'elle le prétend. Aux marges de nos communautés, quelquefois en dehors d'elles, les hommes et les femmes sont en communion secrète avec Dieu, vivent de sa parole, s'engagent en son nom au service des plus petits. Communauté disséminée au cœur du monde et que Dieu seul connaît, disait Calvin. Des hommes et des femmes qui cherchent parfois leur route en dehors des chemins institutionnels, balisés, mais qui savent désormais avec qui ils marchent et quelle espérance les porte et comment leur vie en est tout agrandie. Ce fut donc pour les disciples un rude parcours dans l'espace public. Pour autant, et malgré leur raté, le Christ ne va pas se passer d'eux. Il aurait pu les renvoyer. Il en avait assez vu et entendu. Or, au contraire, il va continuer à les envoyer. Merveilleuse consolation et formidable promesse. C'est de gens comme eux, c'est de gens comme nous que le Christ veut se servir pour témoigner de sa parole. Malgré nos limites, malgré nos fragilités, malgré nos incompréhensions, il continue de nous appeler, de nous aimer sans condition et de nous envoyer, afin que naissent et renaissent en nous et en beaucoup d'autres ceux dont nos vies, nos églises, et notre monde ont tant besoin, la joie de croire et d'espérer. Amen.
Amen. Amen.